Alors, on m'a demandé de parler du management de la prise en charge du pneumothorax. Je vais cadrer le sujet d'abord, et on va parler pendant ces quelques minutes du pneumothorax spontané, primitif ou idiopathique. Donc, on met de côté le pneumothorax post-traumatique, on met de côté les pneumothorax qui s'inscrivent dans le cadre d'une maladie respiratoire chronique, emphysème, fibrose, cancer, pour s'intéresser aux patients qui sont supposés n'avoir aucune pathologie pulmonaire sous-jacente. Et donc, c'est une maladie fréquente, puisque l'incidence chez l'homme tourne entre 7 et 18 pour 100 000 habitants, et un peu moins fréquente chez la femme, 1,5 pour 100 000 habitants. Alors, cette maladie est liée à quoi? Le scanner nous a fait faire des progrès dans la compréhension de cette maladie. Et par rapport à la radiographie de thorax, ce qui est clair, c'est quand on regarde des scanners de près de ces patients, des scanners en haute résolution, on voit des anomalies, essentiellement des petites bulles, des blebs sous-pleuraux, qu'on retrouve chez 70 à 75% des patients chez qui on ferait un scanner thoracique dans cette situation. Si on s'intéresse aux patients qui sont opérés, et donc ce que voit le chirurgien macroscopiquement, finalement, il retrouve des bulles ou des blebs dans plus de 80% des cas. Et si on analyse le parenchyme pulmonaire chez ces patients, on retrouve bien sûr des petites bulles et ces blebs. Et ce qui a été montré, parce qu'on ne s'y intéressait pas beaucoup jusqu'à il y a peu de temps, c'est qu'on voit des lésions de bronchiolite obstructive, d'autant plus que le patient est fumeur et d'autant plus que le patient fume beaucoup. Et puis, de temps en temps, alors qu'on croyait être dans le cadre d'un pneumothorax spontané primitif, on va retrouver des maladies sous-jacentes, histiocytose, fibrose, etc. Quelle est la physiopathologie du pneumothorax? Elle reste encore très discutée. Ce qu'on retient actuellement, c'est que le pneumothorax survient lorsqu'il y a une modification de la pression autour de ces blebs ou de ces bulles, que le volume de la bulle va augmenter, qu'il va y avoir un phénomène finalement de fermeture de valve, probablement lié à cette bronchiolite obstructive, et qu'il va y avoir une rupture de bulle ou de bleb dans l'espace pleural, qui normalement est virtuel, et on va avoir le poumon qui va se dégonfler, le collapse pulmonaire. Alors, vous savez qu'on s'est longtemps posé la question, parce qu'on a tous l'expérience d'épidémie de pneumothorax. On voit un pneumothorax arriver, puis dans la même semaine, dans les mêmes jours, on voit 3, 4, 5 pneumothorax. Et donc, il y a pas mal d'études épidémiologiques qui sont intéressées à regarder s'il y avait une saisonnalité, quels étaient les facteurs associés. Et finalement, on n'a pas trouvé grand-chose jusqu'à, je dirais, cette étude de mon ami Marco Alifano, qu'il a réalisée à Bologne. Il avait la chance de travailler dans un hôpital juste à côté de la station météorologique. Et il a regardé finalement les périodes où la station météorologique définissait des journées d'orage. Et clairement, les journées d'orage, il y a significativement beaucoup plus de pneumothorax que les journées sans orage. Probablement liées à des modifications brutales de pression atmosphérique qui pourraient expliquer cela. Alors, qu'est-ce qu'on sait finalement de cette pathologie? Que c'est une pathologie bénigne, il n'y a pas d'effet sur la survie en général, que c'est fréquent, on l'a dit, que le traitement conventionnel en général, c'est l'hospitalisation, le drainage thoracique, une hospitalisation de quelques jours, et que du coup, ça coûte cher à cause de l'hospitalisation, et puis du fait que les patients s'arrêtent de travailler, etc. Ce qu'on sait aussi, c'est que dans l'évolution, eh bien, le pneumothorax récidive. Et le taux de récidive, il est chez l'homme entre un tiers et 40% des patients vont récidiver après un premier épisode, et les récidives sont plus fréquentes chez les femmes. Malgré tout, il reste des questions, parce que la récidive, ça dépend de la période d'observation. Si on regarde combien il y en a qui récidivent dans l'année et combien il y en a qui récidivent 3 ans après, on n'obtiendra pas les mêmes chiffres. Deuxièmement, il y a des patients qui vont avoir un traitement chirurgical. Suivant le fait que le traitement est plus ou moins tôt, on ne va pas avoir les mêmes récidives. Et il y a un facteur majeur qui est la poursuite ou non du tabagisme. On y reviendra par la suite, mais c'est sûr que la poursuite du tabagisme après un premier épisode de pneumothorax augmente de façon significative le risque de récidive. Alors, on a eu la chance de pouvoir réaliser en France une étude épidémiologique qui en tout cas a attiré l'attention des reviewers de Thorax, puisqu'ils ont accepté le papier tout récemment, on a eu accès aux données, finalement, de la Caisse d'assurance maladie française sur tous les séjours liés à un pneumothorax. Et donc, vous voyez, c'est 60 000 séjours sur une période entre 2008 et 2011, ce qui correspond à 43 000 patients à peu près. Donc, on est sur les big data, là, et on a retenu que les pneumothorax non traumatiques, et on a eu des résultats intéressants. Donc, si on s'intéresse simplement au pneumothorax idiopathique ou primitif spontané, on a des données sur l'âge qui corroborent toutes les études qui existent déjà dans les pays anglo-saxons en particulier. Mais on a quand même quelque chose qui, en France, est très particulier. Pardon. C'est que vous avez un taux d'hospitalisation en réanimation qui est impressionnant. 25% des pneumothorax hospitalisés en France sont hospitalisés en réanimation. Quand on sait le coût d'une journée d'hospitalisation en réanimation pour une pathologie bénigne comme ça, il y a quand même un problème. Le deuxième chiffre qui est important, c'est celui tout en bas de la colonne, 48% de réhospitalisation. Donc, de cette étude, on peut conclure premièrement qu'il y a une incidence annuelle d'hospitalisation qui est élevée. Si on prend juste les patients sans les réadmissions, c'est 16,2 pour 100 000 habitants. Une prédominance masculine très nette, avec vous voyez, un sexe ratio, une femme pour 3,3 hommes. On a, je ne vous ai pas montré la diapositive, mais aucune saisonnalité. Ça s'étale sur toute l'année. Qu'il y a un pic d'incidence chez l'homme plus jeune, un peu plus âgé chez la femme. Et ce que je vous ai déjà dit, le nombre de multiples hospitalisations pour un épisode de pneumothorax. Et clairement, dans cette étude, le fait que le pic d'âge soit différent chez l'homme et la femme, les caractéristiques et les récidives ne sont pas du tout les mêmes chez l'homme et chez la femme, ce qui nous font penser que c'est chez l'homme et chez la femme, ce sont probablement deux maladies un peu différentes, ou peut-être très différentes. Alors, ce qui existe chez la femme et qui n'existe pas chez l'homme, c'est le pneumothorax catamenial. Le pneumothorax catamenial, c'est quoi? C'est un pneumothorax qui survient dans les 24 heures ou dans les 72 heures qui précèdent le début des règles. En général, c'est 25% des pneumothorax chez les femmes qui sont en âge de procréer. Et il faut absolument, dans cette situation-là, évoquer une endométriose thoracique. Pourquoi? Parce que 25% de ces épisodes de pneumothorax cataméniaux sont en rapport avec une endométriose thoracique, dont le diagnostic doit être fait, c'est pas forcément simple, et qui peut nécessiter un traitement médical particulier. Deuxième chose, c'est que quand il y a une endométriose thoracique, le risque de récidive est plus important, et ça doit conduire à avoir une prise en charge chirurgicale plus précoce. Donc, y penser devant tout pneumothorax cataménial. Alors, si on regarde dans cette série de 107 patients de sexe féminin, dont 107 femmes, de 156 femmes, pardon, avec un pneumothorax spontané, il y en avait les deux tiers, 68%, c'est des pneumothorax non cataméniaux et non en rapport avec une endométriose thoracique. Par contre, vous voyez qu'il y en a 13 qui sont des pneumothorax cataméniaux, mais il n'y a pas d'endométriose thoracique. 24, c'est-à-dire 15%, il y a à la fois un pneumothorax catamenial et une endométriose thoracique. Et dans 7,7% des cas, on va faire le diagnostic d'une endométriose thoracique, même si le pneumothorax n'était pas catamenial. Donc chez la femme, pensez au pneumothorax catamenial et pensez à l'endométriose thoracique. On m'a demandé de parler du management du pneumothorax spontané primitif. Et le message, il est « Faites simple, make it easy ». Pourquoi? Parce que l'habitude habituelle, c'est ça. Dans la plupart des centres, c'est on hospitalise, on met un drain, on met en aspiration, on laisse le patient au lit pendant plusieurs jours. Ça ne doit plus se voir chez la majorité des patients. Les questions à se poser sont les suivantes. Devant un premier épisode de pneumothorax spontané primitif, premièrement, est-ce qu'un traitement médical simple est possible? Est-ce qu'un traitement médical simple sans évacuation de l'air pleural est possible? À ce moment-là, la deuxième question qui en découle, c'est pourquoi garder le malade à l'hôpital? Est-ce qu'on peut prendre en charge ce patient, le renvoyer à la maison? La réponse est oui, à condition qu'on lui donne des consignes de repos, qu'on lui donne des médicaments antalgiques, qu'on informe le patient du risque de récidive et de la conduite à tenir s'il était gêné et soufflé, de l'interdiction de prendre l'avion pendant 4 à 6 semaines, et surtout de revoir le patient à 48 heures, à une semaine, etc. La deuxième question, est-ce qu'il y a une indication à retirer l'air contenu dans la cavité pleurale? Une fois qu'on a répondu oui à cette question, il va falloir discuter comment on enlève l'air contenu dans cette cavité pleurale. Mais même dans cette condition-là, on doit continuer à se poser la question. J'ai eu une indication à retirer l'air contenu dans la cavité pleurale. Est-ce que je peux quand même gérer le patient en ambulatoire? Alors, quand est-ce qu'il faut absolument drainer un pneumothorax et donc l'hospitaliser? C'est premièrement s'il n'est pas bien toléré. Et là, vous avez un pneumothorax sur la diapositive qui est là, qui est compressif avec un déplacement de la ligne médiastinale antérieure. Ce patient le tolère mal, il faut évacuer l'air. Deuxième situation qui est très rare finalement, le pneumothorax d'emblée bilatéral, c'est moins de 5% des cas, celui-là nécessite une hospitalisation et une évacuation. L'autre situation, c'est une question que souvent on se pose, et à mon sens, quand on a un pneumothorax comme ça, qui est complet, mais avec un niveau hydroaérique, il faut évacuer le patient. C'est un hydropneumothorax, il est possible qu'il y ait une bride qui commence à se rompre, donc il faut qu'il soit surveillé dans un milieu médical. Enfin, la dernière situation, mais là on sort du cadre du pneumothorax spontané, s'il y a une pathologie pulmonaire sous-jacente, et ici c'était une fibrose pulmonaire, à l'évidence, il n'y a pas possibilité d'une prise en charge ambulatoire. Alors, quand retirer l'air, en dehors de ces conditions où il y a absolument nécessité d'un drainage, d'une hospitalisation? Eh bien, il y a des guidelines qui retiennent soit une distance, un décollement pleural au sommet de plus de 3 cm, ce sont les recommandations de la CCP, soit un décollement complet qui fasse plus de 2 cm au niveau du huile, ce qui est indiqué sur la flèche ici. C'est la recommandation de la British Thoracic Society de 2001. On sait, avec ces données-là qui ont été évaluées, quand retirer l'air. La question qui se pose, c'est comment le retirer, cet air. Et là, il n'y a pas consensus, à savoir que les Américains préconisent plutôt le drainage en première intention et les Anglais plutôt l'exsufflation. Il faut savoir que les études randomisées dans ces deux situations montrent que c'est équivalent comme résultat en termes de succès et d'échec. Donc en pratique, pour la British Thoracic Society, en 2003, les recommandations, c'est donc cette distance au niveau du huile de plus de 2 cm. Il faut évacuer. En première intention, c'est une exsufflation à l'aiguille. On peut répéter l'exsufflation si besoin. Et en deuxième intention, on met un drain thoracique de taille 14 à 20 French avec une aspiration initiale. Et enfin, s'il y a des fuites aériennes persistantes au-delà du 5-7e jour, il préconise une pleurodèse dont on discutera. Alors, est-ce que ces deux recommandations ont été évaluées? Il y a un papier sorti très récemment là dans l'ERJ qui a évalué un petit peu ces deux critères d'indication pour... Alors, ce n'est pas une étude randomisée. Ils ont simplement pris 168 pneumothorax, dont 116 sont traités selon les recommandations de la BTS. Et il y en a, vous voyez, 43% qui ont besoin d'aucune prise en charge à type d'aspiration d'air ou de drainage. Ceux-là, ils rentrent chez eux, donc il y a une simple surveillance. Sur ces 50 pneumothorax donc, qui sont rentrés chez eux, il y en a 3 qui vont nécessiter la pose d'un drain secondairement dans le mois qui suit. Deuxièmement, il y en a donc 66%, donc 57%, 60, pardon, il y en a 66 sur 116, donc 57% qui ont eu besoin d'une aspiration pleurale, puisque c'est la recommandation en première intention de la British Thoracic Society. Vous voyez que la plupart, c'était, ça suivait les recommandations avec une distance à plus de 2 cm au niveau d'huile. Et puis quelques-uns, il y avait moins, mais il y avait quand même une mauvaise tolérance. Et en tout cas, ceux-là, ils avaient tous un décollement apical qui faisait plus de 7 cm. Donc on comprend qu'ils étaient exsufflés. Et le résultat, c'est que sur ces 66 patients qui ont été exsufflés, il y en a 30, soit 45%, qui n'ont pas eu besoin de drainage dans le mois qui suit. Et donc, quand ils ont analysé la sensibilité et la performance des deux critères pour indiquer un drainage thoracique, soit le critère de la BTS ou le critère du bilan de chest de la CCP, ils montraient que si on suivait les critères de la CCP, donc le critère de chest, on aurait posé un peu plus de drain avec le même résultat. Donc, plutôt suivre les recommandations de la BTS. Alors, je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y avait pas finalement de différence entre utiliser un drain et une exsufflation première en termes de succès primaire. En tout cas, si on utilise un drain, la question qui se pose, c'est quelle taille de drain utiliser, quel drain utiliser. Alors, il y a quand même un problème avec l'exsufflation. Je pense qu'ici, il y a des pneumologues qui ont exsufflé des patients. Personnellement, je trouve exsufflé avec une aiguille standard, comme c'est recommandé par la British Thoracic Society, avec un robinet à trois voies, avec une tubulure, etc. Des seringues de 50 ml. C'est la galère. C'est la galère. Il faut parfois aller jusque, puisqu'ils recommandent d'aller jusqu'à 50 seringues. Donc on aspire 50 fois comme ça. Il ne faut pas bouger. Ça fait mal. Il faut que ça ne se déconnecte pas, etc. On risque de piquer le poumon. Les aiguilles sont parfois trop courtes si le malade est obèse, etc. Et qu'il y a quand même la moitié d'échecs. Et quand on regarde ce qui se passe dans la vraie vie, donc même en Angleterre, à Liverpool, il n'y a que 20% des pneumologues qui suivent les recommandations de faire une exsufflation à l'aiguille. Alors, on aurait plutôt tendance à vouloir utiliser un drain. Alors, est-ce qu'il faut utiliser ça, le drain que recommandent nos amis américains, 16 à 22 French, voilà, la réponse est clairement non. Ça, pour le pneumothorax spontané primitif, vous devez oublier. D'accord ? Je vous ai mis le prix en bas. Moi, ce que je vous recommande et ce que j'utilise, et je pense que c'est ce qui est le mieux, c'est ce drain-là. C'est les drains de Furman, c'est des drains en silicone, en queue de cochon, qu'on met par une technique Seldinger, que je vais vous montrer. Vous voyez que le prix n'est pas tellement plus important. Il s'agit d'évacuer de l'air, il ne s'agit pas d'évacuer du liquide. Donc le diamètre n'est pas très important, ça fait 2,8 mm de diamètre. Et il est multiperforé, donc ça ne se bouge pas si facilement que ça. Ça fait vraiment beaucoup moins mal qu'un gros drain. Et il suffit de demander au patient, il n'y a pas photo. Ceux qui ont eu des gros drains, quand on utilise ça dans un deuxième temps, ils sautent de joie. Et c'est aussi efficace. Voilà. Un petit drain est aussi efficace qu'un gros drain dans la prise en charge initiale d'un pneumothorax spontané primitif. Alors, où est-ce qu'il faut le mettre? On peut le mettre soit en axillaire, soit en antérieur. On aurait plutôt tendance à utiliser la voie antérieure dans le deuxième espace intercostal. Pourquoi? Parce que l'air a tendance à plutôt aller en haut et en avant. Et je vous ai mis ici quelques diapositives pour vous montrer comment ça se fait. Une anesthésie locale. On entre une aiguille, on entre un guide, on fait une toute petite incision, on rentre un perforateur et on rentre notre cathéter. Et avec ça, je peux vous assurer qu'il n'y a aucune lésion parenchymateuse grave pulmonaire possible, ni lésion vasculaire. Alors certains d'entre vous utilisent le pleurocathéter. On entre le tuyau dans une aiguille biseautée. Ça, c'est à proscrire aussi. Pourquoi ? Soit on est très bon et on va le mettre, il n'y aura aucun problème. Il suffit de retirer un petit peu le cathéter avec une aiguille un peu tordue. On va couper le cathéter et le bout du cathéter va tomber dans la plèvre. Et on n'a plus qu'à appeler derrière le chirurgien pour aller à la pêche au bout de pleurocath. Et il n'est pas très content parce que très vite, il y a de la fibrine et c'est long de le retrouver dans les cul-de-sac et en postérieur, etc. Donc utilisez plutôt un cathéter de Fuhrmann, et je peux vous assurer, je ne touche aucune somme d'argent de la part du fabricant qui est Cook. Autre question, une fois qu'on a mis ça, faut-il aspirer? Faut-il mettre en aspiration, oui ou non? Eh bien, la réponse, c'est pas nécessaire. Surtout si le pneumothorax est ancien, on a intérêt à éviter d'aspirer tout de suite parce qu'on a un risque fort d'œdème à vacuo. Deuxièmement, il suffit de mettre le drain en déclive, soit sur un pleurovac comme ça, soit éventuellement dans un bocal standard, et on va avoir un bon résultat la plupart du temps, et ça fera moins mal. Donc ce qui est recommandé, c'est de ne pas mettre d'aspiration, en tout cas les premières heures. Donc sur la radio là, vous avez un gros drain qui a été mis en aspiration à moins 20 cm d'eau et un œdème à vacuo qui est apparu. Deuxième question, on va passer en revue un certain nombre de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire. Mettre de l'oxygène. Alors théoriquement, oui, il faudrait mettre de l'oxygène. Pourquoi? Parce que en mettant de l'oxygène à la place de l'azote, on va augmenter la résorption de ce qui va être contenu dans la plaie, parce que l'oxygène est mieux résorbé que l'azote, et on devrait diminuer la durée du décollement, ou en tout cas favoriser la résorption du pneumothorax. Le problème, pour faire ça, il faut créer un gradient entre la cavité pleurale et la paroi, et pour ça, il faut utiliser des débits très élevés d'oxygène, je dirais de façon intermittente. Donc en pratique, c'est pas fait, mais si vous voulez mettre de l'oxygène, c'est pas 1 ou 2 litres, c'est 10 litres au moins qu'il faut mettre au patient. Quand est-ce qu'on enlève le drain? Alors, ce qui est recommandé, vous voyez, il y a différentes recommandations. Globalement, c'est de mettre le drain sans aspiration sur un système pleurévac pendant 4 heures. Et s'il n'y a plus de bullage, si ça ne bulle plus, on retire le drain, c'est ce que recommande la CCP. Pour les Anglais, ils mettent aussi au bocal, sans aspiration, mais pendant 48 heures, et ils enlèvent au bout de 48 heures. Si c'est un échec, ils mettent en aspiration après 48 heures. Et puis on va parler d'autres solutions, comme telles préconisées par Charles-Hugo Marquette. Alors est-ce qu'il faut faire un scanner? La réponse est non. S'il n'y a pas d'anomalie évidente sur la radio de thorax, du côté contralatéral ou même du côté du pneumothorax, ça n'aura pas d'implication thérapeutique. Bien sûr, si on a des problèmes de réexpansion, des problèmes de drainage, etc., ou si on a un doute sur une pathologie pulmonaire sous-jacente, il faut faire un scanner thoracique lors d'un premier épisode de pneumothorax, mais uniquement dans ces cas-là. Et donc la question qui reste, c'est chez les patients à qui on a mis un cathéter intrapleural, est-ce qu'on peut les gérer de façon ambulatoire? Il y a quelques années, on ne savait pas trop bien. Je pense qu'aujourd'hui, la réponse est oui. On a, vous voyez, tout un tas d'études qui ont évalué cette pratique. On va y rentrer en détail. Mais on a au moins 6 études qui vont dans ce sens-là et qui montrent qu'on peut gérer les patients de façon ambulatoire après leur avoir mis un cathéter intrapleural en utilisant une valve de Heimlich. Donc le premier qui a fait ça, c'est Charles-Hugo Marquette à Lille. Donc il avait montré que sur 41 pneumothorax qui avaient été drainés, vous voyez à la fois aux urgences et par des médecins différents, donc ce n'est pas un seul médecin qui fait ça, il met les drains en antérieur ou sur la ligne médio-claviculaire, et les patients vont tous marcher, même ceux qui sont hospitalisés, il met une valve de Heimlich derrière, et puis il essaye de les faire sortir le plus tôt possible. Et vous voyez que dans 60% des cas, les patients sortent à H24, donc 24 heures après leur admission. Et ils peuvent même prendre une douche, ce qui est pas mal. Bon, l'autre étude qui a été faite, c'est une étude 4 témoins. Et donc là, c'est 47 épisodes de pneumothorax spontané. Il y en a 43 qui sont vraiment idiopathiques. Donc il met ce drain de Heimlich avec une valve, ce drain de Fuhrmann, pardon, de 8F avec une valve de Heimlich. Il les garde au service d'urgence jusqu'à la 6e heure. Et à la 6e heure, il les fait sortir avec une consultation H24 au 4e jour et au 6e jour. Vous voyez qu'il y a quand même 43% de succès. Il y a trois récidives précoces. Et le coût, vous voyez, par rapport à garder les patients hospitalisés, ça, c'est trois fois moins cher. Et puis, Charles Hugo a repris, donc le papier est signé Massongo, publié dans l'ERJ, une série avec un peu plus de patients utilisant cette technique. Donc, on voit bien ce cathéter qui est mis en intérieur. On met une valve de Heimlich comme ça et on va faire sortir le patient. Donc, c'est des patients qui sont l'âge habituel des pneumothorax, donc 25 ans en moyenne. Vous voyez, rien de particulier. Des délais assez précoces entre le début des signes de pneumothorax et la prise en charge, et des pneumothorax qui sont autant à droite qu'à gauche, et globalement plutôt des pneumothorax importants. Et on voit ici que sur les petits pneumothorax, donc ceux qui faisaient moins de 2 cm au niveau du huile, eh ben, ils vont juste les garder en observation, c'est-à-dire qu'ils vont tous les faire sortir, il n'y a aucun problème. Et ceux qui sont plus larges, donc qui font plus de 2 cm au niveau du huile, ils vont mettre un petit cathéter, la valve de Heimlich, et voici les résultats. Ils ont 50% de succès à 7 jours. Il y a finalement la moitié des patients qui peuvent être gérés en ambulatoire. Que ceux, si on tient compte de ceux qui sont hospitalisés, la durée moyenne d'hospitalisation, c'est 2 jours. Que finalement, ça coûte beaucoup moins cher par épisode et que le taux de récurrence à 2 ans n'est pas très élevé, vous voyez, 16,7%, c'est un taux plutôt bas. Donc, si on résume là la proposition de prise en charge, la première question, pas de flèche, c'est d'abord, est-ce que le patient est dyspnéique ou pas ? Eh bien, si oui, il faut probablement l'exsuffler, voire lui mettre un drain. Deuxièmement, sur la radio de thorax, analyser la taille du pneumothorax. Est-ce qu'elle fait plus de 2 cm ou moins de 2 cm au niveau du huile? Si ça fait plus de 2 cm, s'agit-il du premier ou du deuxième épisode? On va rester dans le cadre du premier épisode. Si ça fait moins de 2 cm, bien interroger son patient. Il n'a pas de comorbidité, il ne vit pas seul à la maison, il n'habite pas trop loin de l'hôpital, il est capable de comprendre, il est compliant. Si les réponses sont oui, à ce moment-là, il rentre à la maison du repos et on le revoit simplement à la 24e heure. Sinon, il faudra bien sûr l'hospitaliser pour le surveiller. Deuxième situation, le pneumothorax est important, fait plus de 2 cm sur, au niveau du huile. À ce moment-là, c'est le premier épisode, il faut retirer l'air. Alors, soit on choisit l'exsufflation première et en cas de succès, à condition que le patient puisse rentrer chez lui, il rentre chez lui. En cas d'échec, on va passer par le drainage avec un petit drain. Et en cas, soit on a un succès, tant mieux. Si on est en échec, à ce moment-là, on va mettre en aspiration et surveiller. Et à partir du troisième jour, on discutera de ce qu'on fait. Et si dès que c'est un succès, il peut rentrer à la maison. Moi, ce que je vous propose, c'est de supprimer l'exsufflation à l'aiguille. C'est l'expérience qu'on a dans notre centre. On passe directement pour enlever l'air par le cathéter de Furman. Ça fait pas plus mal que l'exsufflation à l'aiguille. Et puis, soit on a un succès, à ce moment-là, on l'enlève et on fait rentrer le patient chez lui. Soit on a un échec, et ben on met ce cathéter en aspiration. Voilà. En sachant que on peut aussi faire sortir le patient avec une valve de Heimlich dès la 4e heure, après l'avoir surveillé, s'il est compliant, s'il comprend, et on le revoit à la 24e heure. Donc ça permet, avec une seule technique, de faire soit de l'exsufflation, soit du drainage si nécessaire. Quand on a un échec, on va discuter du traitement chirurgical, et je vais donner quelques mots sur le traitement chirurgical. D'abord, les échecs du traitement médical, indication chirurgicale. Ben, s'il y a des fuites aériennes persistantes, à mon sens, suivant dans les guidelines, c'est écrit 7 à 5, retenez 5, parce que c'est rarement, on a rarement de succès au-delà du 5e jour. Deuxièmement, on a drainé et le patient récidive après avoir enlevé le drain ou après avoir. Il faut à ce moment-là l'adresser pour discuter une chirurgie. Donc, c'est pas la peine de perdre du temps, il va avoir nécessité d'une intervention, donc autant le contacter le plus vite possible. Donc moi, clairement, si c'est un patient qui a récidivé après avoir été drainé, au troisième jour, on envisage qu'il soit opéré. Si c'est un drain qui continue à buller, au cinquième jour, il faut discuter l'intervention. Le pneumothorax bilatéral, j'en dis deux mots, c'est une indication chirurgicale. Mais attention, il faut opérer le côté le plus important, ou celui qui bulle le plus, de façon la plus importante, mais sous couvert d'un drainage du côté opposé. La deuxième chose, c'est qu'avant d'opérer l'autre côté, il faut attendre. Il faut laisser le patient avec un drain. Il ne faut pas sauter dessus 48 heures après la première intervention. Le risque, c'est qu'il décolle du côté de l'intervention parce qu'il va y avoir des hyperpressions pendant l'acte de chirurgie, en particulier avec tous les problèmes liés à une ventilation unipulmonaire. Donc il va être ventilé de façon unipulmonaire sur un poumon qui a été opéré 48 heures avant pour permettre d'opérer l'autre côté. Vaut mieux attendre au moins une semaine ou 15 jours. Deuxième indication, c'est la récidive de pneumothorax. Alors, si c'est un pneumothorax contralatéral, à mon sens, il faut le confier au chirurgien. Si c'est une récidive du même côté, soit on le confie d'emblée au chirurgien, soit on attend la deuxième récidive. Moi, j'aurais tendance à dire plutôt dès la première récidive, surtout si c'est précoce, dans le mois qui suit le premier pneumothorax. Si c'est un pneumothorax important, si c'est le souhait du patient, il y a des patients qui voyagent, qui ont des activités professionnelles, etc., ils ne veulent pas perdre de temps, etc., ils n'ont pas envie que ça récidive quand ils sont dans un pays où ce n'est pas facile de le prendre en charge. Si effectivement il y a des bulles sur le scanner, ça peut peut-être pousser un petit peu, et surtout si on a une suspicion de maladie pulmonaire sous-jacente. Alors, quel traitement chirurgical proposer ? Alors clairement, c'est de la chirurgie vidéo-assistée sur un pneumothorax spontané. Pourquoi ? Parce que les études montrent que ça fait moins mal, que les patients récupèrent plus vite. Mais n'oubliez pas que ça nécessite quand même une anesthésie générale, ça nécessite quand même une ventilation unipulmonaire, ça nécessite quand même la présence d'un drain au moins dans les suites de l'intervention, voire deux, et ça nécessite un séjour de quelques jours à l'hôpital. Donc ce n'est pas la chirurgie et je sors le lendemain, ce n'est pas vrai. Et puis il va falloir quelques semaines pour récupérer. Alors, ça peut paraître curieux de faire cette étude en 2015, mais on a la chance en France d'avoir un registre qui s'appelle le registre Epitor, où sont rentrés tous les actes de chirurgie thoracique. Et donc, il y a une analyse qui est faite sur une période de 7 ans, vous voyez, entre 2005 et 2012, de 7000 patients, plus de 7000 patients, qui ont été opérés pour un pneumothorax spontané. Heureusement, on voit bien que la majorité des patients ont été opérés par vidéothoracoscopie, puisque c'est plus de 4000 patients versus simplement 900 patients et quelques qui ont été opérés par thoracotomie. Et l'idée, c'était de comparer ces patients pour voir quel était le risque de récidive avec chacune des interventions et le risque de complications. Alors, il y a une analyse statistique extrêmement poussée, multivariée, qui stratifie, etc. Ce qui est clair, c'est que la chirurgie vidéo-assistée, elle diminue à la fois la durée d'hospitalisation et elle diminue un peu les complications. Par contre, il y a un risque de récidive qui est quand même plus important qu'après un geste de thoracotomie. Donc, dans certains cas, il faut encore proposer un geste par thoracotomie chez des patients dont la profession est particulière. Ça peut être encore une indication. Mais deuxième possibilité pour faire de la pleurodèse, donc de la symphyse pleurale, c'est la pleurodèse médicale. Ce qu'on sait, c'est qu'après une pleurodèse médicale, la récidive de pneumothorax diminue très nettement. Par contre, les pneumothorax récidivent moins quand ils ont été opérés que quand il y a eu juste une pleurodèse médicale. Donc, mettre un produit de pleurodèse, que ce soit du talc ou des tétracyclines, par le drain. Et ce qui est conseillé actuellement, c'est de proposer la pleurodèse médicale, donc par le drain, uniquement aux patients qui refusent ou qui ont une contre-indication opératoire, des patients très âgés avec beaucoup de comorbidités, etc. Quant au produit à utiliser, ils sont équivalents quand on lit la littérature. Il n'y a pas de problème. Et le talc qui est utilisé, à condition qu'on utilise du talc fait pour ça, donc du talc de Luzarches, il n'y a pas de risque particulier de complications, en particulier d'œdème pulmonaire lésionnel dans le suite du talcage. Alors, récemment, il y en a qui proposent de talquer directement, dès le premier épisode. Ils ont été drainés, ces patients, et on fait un talcage ici, avec un talcage, plutôt une symphyse avec de l'aminocycline. Alors, dans cette étude, il y a pas mal de patients. C'est le premier épisode et ils montrent le taux de récidive qui est plus bas après symphyse médicale. Moi, ce qui me surprend un petit peu dans cette étude, c'est qu'ils ont un taux de récidive en haut des patients à qui ils ont juste mis un drain sans faire de symphyse chimique, qui est à plus de 50%, ce qui me paraît extrêmement élevé. Ce n'est pas l'habitude de ce qu'on voit après un premier drainage. Alors, si on prend notre schéma, notre algorithme, jusque-là, on avait vu ça ensemble. Et ce qu'on fait, c'est, une fois qu'on a une récidive où on est en échec d'un premier drainage, on va discuter une pleurodèse. Est-ce qu'il est opérable ? Si c'est oui, ben on va lui proposer une vidéothoracoscopie. Si c'est non, on va lui proposer une pleurodèse médicale. Et vous pouvez utiliser ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors, je vous résume sur cette plaque, un peu dur à lire, ce que vous devez retenir. Première étape, différencier pneumothorax spontané primitif des autres pneumothorax, la prise en charge n'est pas la même. Deuxièmement, pour faire le diagnostic, on a besoin que d'une radio de thorax de face. Point. Ça suffit. Deuxièmement, si c'est un petit pneumothorax, une prise en charge ambulatoire est possible, et même recommandée. Le repos, des antalgiques, et revoir le patient. Si c'est un pneumothorax, disons plus important, et on peut suivre les recommandations de la BTS, donc plus de 2 cm sur la ligne au niveau des îles, ou si le pneumothorax persiste au bout de plusieurs jours, quand il est revu, on peut soit choisir une exsufflation à l'aiguille, soit mettre en place un cathéter de Furman, faire l'exsufflation avec le cathéter de Furman. En cas d'échec de l'exsufflation ou en cas d'échec, on propose soit la pose d'un drain, ou si on a déjà le cathéter de Furman, on utilise le cathéter de Furman comme un drain. Un petit drain est donc suffisant, et chez les patients qui peuvent être pris en charge ambulatoire parce qu'ils habitent pas loin, qu'ils n'ont pas de comorbidité, parce qu'ils comprennent, on peut les faire rentrer chez eux avec un petit drain de Furman, une valve de Heimlich, à condition de les éduquer et de les revoir à la 24e heure, à 4 jours et à 6 jours. Dernière chose, chez les femmes, il faut vraiment penser à l'endométriose thoracique si c'est un pneumothorax catamenial, parce que ça nécessite une prise en charge spécifique et sans doute qu'on sort même du cadre du pneumothorax spontané. Et enfin, vraiment dire à vos patients qu'il ne faut pas fumer, arrêter de fumer s'ils ont fait un pneumothorax, parce que à la fois la poursuite du tabagisme, mais aussi la quantité de tabac qu'ils vont continuer à fumer, est un facteur majeur de risque de récidive. Et quand je parle de tabac, je ne parle pas simplement de cigarettes. On est au Liban et je pense que le narguilé rentre dans la même catégorie. Je vous remercie de votre attention.